One, two, three.
Bonjour, je suis Anne-Laure Kerr. Il faut pas que je le dise, mais je fais du 90E et je n'ai pas les seins refaits.
Patricia Touranchot, suspecte, signe particulier de petite taille, mini-jupe et talons, mode opératoire, s'immisce dans les peaux de flics ou au 36 avec son petit calepin pour noter les tuyaux et les faire parler.
Et je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kenéen.
Alors moi j'avais décidé de vous présenter comme ça, Anne-Laure Kerr, dans le civil, avocate à la cour d'appel de Paris, vous faites, dites-vous, dans le pénal crade. Dans le privé, vous êtes romancière, scénariste et réalisatrice. Votre quatrième roman, La Daronne, publié aux éditions Métellier, vient d'être couronné donc du prix Le Point du Polar Européen. Après une trilogie masculine, vous offrez avec cette Daronne un personnage féminin plus que haut en couleur, je dirais, pyrotechnique. Quant à vous, Patricia Touranchot, journaliste à Libération, puis aussi d'Information, Les Jours, vous êtes tombée dans la rubrique banditisme, faits divers, dès votre premier stage, en suivant une descente de la Brigade des Stupes. Aujourd'hui, vous avez bientôt 30 ans de maison Poulaga au 36 quai des Orfèvres, alors que la maison mythique déménage, vous publiez le 36, histoire de poulet, d'indic et de tueur en série, aux éditions Le Seuil, Les Jours. Ce soir, dans Ping Pong, eh bien, deux femmes bien connues des services de police.
Ping Pong. La culture sans limite. Oh, yeah. Édito.
Hasta la vista Linda Carter et Boker Tov à Gaël Gadot, car n'en déplaise aux islamistes qui appellent au boycott de l'actrice israélienne, Wonder Woman a un nouveau visage et passe du petit écran de la télé à celui bigger than life du cinéma, dans ce qui est enfin le premier film de super-héroïne Wonder Woman en salle demain. Mais si cette déesse Amazon est présentée par l'éditeur de comics DC comme la seule femme de la Trinité, aux côtés de Batman et Superman, elle n'a rien du Saint-Esprit, elle qui fut inventée en pleine Seconde Guerre mondiale, non par un scénariste, mais par un psy qui se passionnait pour les lesbiennes, le bondage et la bande dessinée, et qui était désireux de créer un archétype féminin possesseur, je cite, de force et de pouvoir. Décrié cependant, dans les années 60, comme une image effrayante pour les garçons et un idéal morbide pour les filles, jusqu'à Ironie du sort, perdre ses super-pouvoirs en 68 et devenir alors vendeuse de fringues ou secrétaire, la belle et rebelle Diana est aujourd'hui redevenue super et branchée bondage, et aussi par les filles, normale, vu qu'elle a grandi sur une île peuplée d'Amazon, nous explique le dernier scénariste à l'avoir mise en comics pour l'éditeur DC. Et la voilà, avant même que les Français n'aient découvert ces nouvelles aventures, qui offrent à la réalisatrice Patty Jenkins une victoire de plus sur le patriarcat. Lors de son premier week-end d'exploitation aux États-Unis, le film Wonder Woman a damné le pion à ses mâles concurrents.
Qui est cette femme ?
C'est ma secrétaire, en général. Et c'est une excellente secrétaire.
Anne-Laure Kerr, je ne sais pas si vous partagez cette idée qu'on doit à cette nouvelle Wonder Woman qui dit dans le film « Nous savons que les hommes sont nécessaires pour la procréation mais inutiles pour le plaisir ». En revanche, est-ce que cette Wonder Woman, celle des bandes dessinées, des comics, ou cette Linda Carter qui était l'actrice de la série télé, a pu nourrir votre imaginaire, puisque c'est une sorte de Wonder Woman, votre daronne, l'héroïne de votre nouveau polar ?
Disons qu'elle n'est pas habillée vraiment pareil, hein.
C'est plutôt,
elle a pas le corset.
La djellaba léopard.
Moi, j'aurais adoré.
Le short.
Personnellement, j'aurais adoré. Mais bon, mon physique ne s'est jamais prêté au petit short ralafouf comme Wonder Woman. C'est bien dommage.
Elle a un gros imperméable et deux gros sacs tati sur la couverture du livre.
Voilà. Voilà. Est-ce que mon héroïne est une...
Est-ce que vous êtes nourrie de... De Wonder Woman.
De Wonder Woman, je peux tourner sur moi-même. Il se passe rien. Hein. Non, pas vraiment. Bon, je suis plus Marie Curie, hein. Voilà.
On est dans la chimie, oui, dans la daronne.
Patricia Touranchot, il faut savoir que William Moulton Marston, donc ce psychologue et auteur de bande dessinée, inventeur de Wonder Woman en 1940, eh bien, il est aussi inventeur du détecteur de mensonges. Ah. Et je voulais savoir si c'était un fantasme, voilà, de film policier, ou si vous, au 36 Quai des Orfèvres, en observant interrogatoires et autres séances, vous aviez pu voir cet instrument à l'usage.
Jamais, jamais j'ai vu cet engin au 36 Quai des Orfèvres. Il y a eu des coups de bottin à une époque, des interrogatoires psychologiques à la brigade criminelle. Le détecteur de mensonges, je l'ai vu une fois, mais ce sont les flics belges qui l'utilisaient pour faire parler notamment Monique Fourniret, la femme du tueur en série des Ardennes, et essayer de lui extorquer des aveux. Et finalement, c'est pas de mensonges qui a marché, mais ils ont dû faire 120 interrogatoires de Monique Olivier, ça a fini par marcher, elle a tout balancé.
Et bien ce soir, et bien vous allez tout balancer. Patricia Touranchot, Anne Lorquer.
Ping pong.
Communication numéro 1387. Haribo prévient Cortex qu'il doit appeler Juju parce qu'il ne répond pas. Communication 1488. Cortex demande à Juju de monter la queue-tru. Communication 1519. Juju n'a plus de chocolat mais il a du verre. Communication 1520. Juju a besoin que Cortex lui ramène 2 de 12 et une salade. Communication 1637. Haribo commande 1000 euros de jaune et lui envoie un petit dans la demi-heure. Communication 1692. Haribo et Place Gambetta, le petit n'est pas là. Communication 1732. Gnocchi lui demande 10 disques. Cortex lui dit que dans une demi-heure, il le retrouvera à la chicha, le Balboa. Je traduisais ça à l'infini, encore et encore, tel un cafard bousier. Oui, ce petit insecte robuste de couleur noire qui se sert de ses pattes antérieures pour façonner des boules de merde qu'il déplace en les faisant rouler sur le sol. Eh bien, son quotidien minuscule est à peu près aussi passionnant que ce qu'a été le mien pendant presque 25 ans. Il pousse sa boule de merde, la perd, la rattrape, se fait écraser par son fardeau, n'abandonne jamais, quels que soient les obstacles et les péripéties rencontrées. Voilà ce qu'a été ma vie professionnelle, et ma vie tout court d'ailleurs, puisque j'ai passé mon temps à bosser. Lorsqu'il m'arrivait, très rarement, de parler de mon métier dans les dîners en ville, les gens étaient unanimement fascinés par ce que je pouvais bien entendre dans ces conversations. Un peu comme dans le poème « Le voyage » de Baudelaire. « Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires, ces bijoux merveilleux faits d'astres et d'éther. Nous voulons voyager sans vapeur et sans voile. Faites pour égayer l'ennui de vos prisons, passez sur nos esprits tendus comme une toile, vos souvenirs avec leur cadre d'horizon. Dites, qu'avez-vous vu ? Rien, je n'ai rien vu parce qu'eh bien, il n'y a vraiment rien à voir.
Il n'y a rien à voir, mais tout à raconter. Nous sommes avec Patricia Portefeu, 53 ans, qui a connu de meilleurs jours.
Patience.
Portefeu. Patricia prend patience.
Patience, pas du tout.
Elle porte le feu.
Patricia
Touranchot. Patience, Portefeu, votre héroïne. Alors, car c'est-à-dire que nous sommes avec cette narratrice qui est un petit peu votre double littéraire. On a parlé de la couverture du livre La Daronne, publié aux éditions Métayer, qui vous représente, c'est vous, sur la couverture, avec cet imperméable, ce fichu et ces deux sacs tati. Et puis, ce métier de traductrice. Donc, traductrice interprète payée au noir par la justice dans les prisons, c'est aussi un petit peu un métier d'écrivain, parce qu'elle parfois elle rajoute des choses qui sont complètement fausses dans ses retransmissions d'écoute téléphonique. Et puis il y a bien sûr cette figure du cafard bousier qu'on vient d'entendre, qu'est la façon dont elle décrit son travail, qui est peut-être proche aussi de ce que vous imaginez comme transformation du réel merdeux, si je puis me permettre. Donc, en quoi cette patience, Portefeu, c'est votre double? Anne Lorquer.
parce qu'il y a un côté tonneau des Danaïdes dans la justice. Moi, je suis avocat, je ne suis pas traductrice, interprète. Mais ça se remplit et ça se vide d'un côté, ça se vide de l'autre côté, ça se remplit et encore et encore et encore. On a les mêmes clients récidivistes. Après, on a leurs enfants, les enfants de leurs enfants, toujours dans les mêmes délits. Et on fait beaucoup de trafic de stupes, donc c'est toujours les mêmes histoires, toujours les mêmes noms foireux, les mêmes rendez-vous ratés, les mêmes écoutes. Parce que quand on est avocat, on reçoit les CD-ROM des juges d'instruction pour préparer la défense de nos clients. Donc, comme les traducteurs interprètes, on lit absolument toutes les écoutes téléphoniques pour essayer de trouver un moment où notre client, qui n'est jamais innocent, ne serait peut-être par extraordinaire pas là, ou que la triangulation est mauvaise pour le localiser dans l'espace.
C'est l'avocate qui parle, hein, et voilà. Pas la romancière.
Voilà. Donc c'est le côté interminable et toujours extrêmement répétitif du travail qui fait que c'est une façon d'exprimer en quoi c'est patience est mon double. Il faut être très patient, en fait.
Et cette patience, à force de lire et de retranscrire toutes ces écoutes téléphoniques, eh bien, elle acquiert cette langue très particulière qu'on entendait en particulier dans l'extrait que vous nous avez lu de votre daronne, où on entendait des conversations entre Haribo, Gnocchi et Juju, qui évidemment trafiquaient autre chose des disques entre eux. Et il se trouve que c'est aussi ce que vous avez pu être amené à faire, et on trouve justement à vous lire dans cette daronne qui va mal tourner, hein, disons-le, elle va finir avec ses sacs Tati, il y aura autre chose que des comptes rendus d'écoute hein, dans ses sacs. Quand elle aura mis la main sur un gofas, sur un chargement de cannabis, elle va se muer en dealer. Il y a ce plaisir de la langue. La langue, c'est votre métier, vous l'avocate, puisqu'il faut des connaissances techniques, celles des arcanes du code pénal. Et puis, il y a ce verbe. Alors, quand on pense aux histoires de flics ou de voyous, on pense à Audiard. Mais Audiard, c'est un peu de l'archéologie, comme ce que pratique Patricia Tourancheau avec son 36, qui n'est pas que de l'archéologie, mais il y a ce plaisir-là. Vous, c'est une langue qui est très actuelle. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette langue très aiguisée, comme je dirais, comme un cutter pour couper des savons de shit?
Pour un écrivain, c'est assez intéressant de manier différents niveaux d'expression pour parler technique. D'abord, il y a la langue qui est adressée au lecteur, c'est-à-dire que je fais très attention d'utiliser un très beau français. Et en plus de ça, bon, comme c'est mon cinquième roman, j'essaie de ne pas me répéter parce que c'est pas évident. Donc, de nouvelles images, de nouvelles tournures. Comme je note tout ce que j'écris avec un logiciel qui me permet de retrouver et de ne jamais remettre la même expression, parce qu'on lit, on dit toujours qu'un écrivain écrit toujours le même roman. Je veux pas faire ça, donc j'en écris pas beaucoup et j'essaie de me renouveler à chaque fois. Donc il y a ça d'abord, la langue d'expression. Il y a la langue, la langue des trafiquants. Alors évidemment c'est du vrai, parce que j'ai puisé dans les milliards d'écoutes téléphoniques, des phrases par-ci par-là. Alors quand vous avez des écoutes, alors ça peut être pour le trafic ou pour autre chose, souvent il n'y a pas grand-chose à en tirer. Puis tout d'un coup, de temps en temps, vous tombez sur un vrai artiste avec des expressions mais fantastiques. Donc ça c'est des perles et je les garde, je les mets de côté. Il y a la langue de la police judiciaire, pédestrement, nous nous rendons à et nous faisons les langues des PV. Qui est très, très très rigolo.
Nous transportons
cherchons dans son répertoire de portable à Baveux, trouvons le numéro de etc. Donc ça c'est très très drôle. Il y a la langue intérieure du personnage qui est différente de celle de la narration, qui est aussi un niveau d'expression qui est intéressant. C'est la première fois que j'écris avec une héroïne, oui, à la première personne, parce qu'avant à la première personne femme. J'écris trois livres, le héros était un homme et c'était à la première personne un homme.
Un homme avocat.
Avocat. Et parler à la première personne en parlant d'une femme quand on est une femme, il a fallu que j'attende l'âge vénérable de 54 ans pour accepter de parler à la première personne en tant que femme. Ce qui fait que ça enlève également beaucoup de remparts vis-à-vis de sa propre psyché. Donc, il y a beaucoup de choses à moi dans ce livre.
Il y a par exemple cette phrase qui relève peut-être de l'anthologie de l'humour noir. En tout cas, moi, je pourrais l'y intégrer. Pour être désespéré au point de penser au suicide, il faut une force d'âme que je n'ai jamais eue. même pas capable de se suicider par science porte-feu. Il y a beaucoup de choses, hein, comme ça. Elle assume aussi d'être une mère parfaitement pénible et aigrie, qu'on fuit. On fuit sa personne acariâtre pour s'installer en colocation, pour ce qui est de ses filles. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'il y a aussi de la femme de 53 ans qui est cette héroïne que vous avez creusée? Et peut-être des choses aussi sur son rapport aux hommes. Elle est amoureuse d'un policier qu'elle choisit parce qu'il la désire particulièrement, mais en revanche, quand il s'endort à côté d'elle comme un cheval mort, elle a tout de suite envie de partir.
Bah, ça parle des femmes post-ménopause. J'ai commencé à écrire mon roman sans savoir vraiment ce qui allait se passer. Et j'avais un centre, c'est-à-dire je voulais qu'elle se retrouve avec beaucoup d'argent d'un coup et qu'elle ait toujours un coup d'avance sur les policiers parce qu'elle traduisait des écoutes. Parce que ça m'a toujours fascinée, je me suis dit mais comment ça se fait que les gens qui traduisent des écoutes d'une langue étrangère ne font pas quelque chose de malhonnête dans la mesure où personne ne revient sur ce qu'ils traduisent, car personne ne connaît leur langue. C'était un ressort narratif incroyable. Je me suis dit, mais c'est étonnant, personne n'a jamais eu un héros qui était traducteur, alors qu'il sait tout le premier. Donc voilà.
Vous allez donner des mauvaises idées à certaines auditrices.
Voilà.
Non. Payé au noir dans les sous-sols des palais de justice.
Je me suis dit, c'est assez incroyable. Donc voilà, il y avait un centre comme ça. Et puis, donc dans mon histoire, tout d'un coup, elle avait plein d'argent. Et puis je me suis dit, mais quand on a un habitus à faire attention à tout, à hurler après ses enfants, comme je dis, quand elles ont une tache sur leur jean ou les cheveux sales parce qu'on a peur du déclassement social, parce que dans mon héroïne, au début, elle faisait partie d'une classe aisée, puis tout d'un coup, il y a une dégringolade sociale.
Suite à la mort de son mari.
Le déclassement social pour les classes moyennes est quelque chose d'extrêmement important, ce qui fait que les gens se saignent et deviennent effectivement acariâtres parce qu'ils ont le nez dans le guidon pour élever leurs enfants. Je me suis dit, mais est-ce qu'une femme qui a économisé tout, qui a travaillé comme une bête toute sa vie, tout d'un coup, elle a plein d'argent, qu'est-ce qu'elle va faire? Bah rien, en fait. En fait, rien. Je racontais mon histoire à mon mari, n'est-ce pas? Et il me dit, mais c'est une petite madame, ton héroïne, ça va être chiant. Et je dis, mais non, en fait, une petite madame, c'est pas chiant. Parce qu'elle peut aussi revendiquer d'être une petite madame libre. Voilà. Et une petite madame libre, ça peut gérer un homme, excusez-moi du terme employé, puisque nous parlons de niveau linguistique, ça peut jeter un homme et non pas jeter un homme qui ne sert plus à rien. Et ça peut être vraiment très très libre. Être libre d'être une petite madame, pour moi, c'est encore être beaucoup plus libre que tout le reste.
Mais alors cette daronne, petite madame qui devient une madame, comme on dit aussi du côté de la police judiciaire, Patricia Tourancheau, c'est l'occasion aussi d'évoquer avec vous le fait que votre recueil d'histoires de poulets, d'indiques et de tueurs en série, c'est le sous-titre de votre livre Le 36, donc publié au Seuil avec Les Jours, c'est aussi une histoire de femme. C'est vous, la fée diversière, comme vous vous présentiez en jupe courte, qui débarque chez les poulets. Rappelons que ce sont des gallinacées châtrées, ces pauvres bêtes. Mais c'est aussi une histoire des femmes flics, avec Odile Ferris, première inspecteur, entrée au 36, Martine de Monteil, qui a été patron du 36, Katia Laroukine, indique parmi les indiques, et puis aussi les femmes qui sont du côté des victimes, comme la petite Cécile Bloch. C'était aussi une histoire de femme, ce 36?
Oui, et c'est un peu une histoire de comment quelques femmes se sont imposées au 36, parce que c'est pas facile. Même la commissaire Monteil, elle est partie en bas de l'échelle. Il a fallu pas mal de crans pour pouvoir petit à petit diriger toutes les brigades. Et en général, on l'appelait quand au sein de cette brigade, il y avait eu des problèmes donc soit la mondaine, soit la BRB, des problèmes
la répression du banditisme,
de corruption, de policiers virés, d'alcoolisme. Et d'ailleurs, c'est pour ça, elle réussit à faire tomber Madame Claude, la Madame Claude Fernande Grudet de son vrai nom, qui avait remonté un réseau de call girl dans les années 90. Elle l'a refait tomber, mais en grand secret, c'est-à-dire qu'elle a mis dans le secret des dieux, finalement, que le commandant, enfin l'officier qui est l'inspecteur qui lui avait parlé de ce nouveau réseau, et elle l'a dit absolument à personne au 36, ni ses patrons, ni surtout personne, parce qu'elle pensait qu'elle n'arriverait pas à la faire tomber. Et elle l'a fait tomber. Ensuite, on a un face-à-face Martine Monteil, Madame Claude, assez truculent quand même.
Ça, c'est la rencontre de ces grands personnages féminins du 36 Quai des Orfèvres qu'on retrouve. Il y a une bible des personnages dans votre livre, Patricia Touranchot. Mais vous, là-dedans, vous êtes aussi un des personnages féminins du 36, parce que vous y avez passé presque 30 ans d'enquête. Vous parliez tout à l'heure de ces bars à hôtesses. Vous avez été pendant une semaine. Vous êtes appelée comment déjà dans ce bar à hôtesses?
Pamela.
Pamela, vous avez été tout à fait Pamela pendant 12 jours dans un bar à hôtesses.
À Lyon.
À Lyon, prévenant la mondaine de ne pas vous embarquer. Oui. Comment aussi vous vous êtes fait accepter dans cet univers, parce qu'on voit qu'au départ, non seulement vous êtes une femme, mais en plus vous venez d'un journal de gauche, Libération, qui pour le 36, c'est plutôt un journal qui va écrire sur les bavures et les ripoux.
Mais mon premier interlocuteur, le premier nom que j'ai, moi je débarque de province, j'ai travaillé à Lyon Libération, où j'ai fait mes 12 jours d'hôtesse, de dame de compagnie dans un bar à bouchons, pour une immersion, pour un reportage, quoi. Et quand je débarque à Paris, moi je suis à poil quasiment. J'ai deux noms de policiers, dont un du 36, le numéro 3, la brigade criminelle, qui s'appelle Frédéric Pechnard, qui est d'une grande famille bourgeoise, qui est de droite, évidemment, qui lit le Figaro. Et moi, je l'appelle en disant, on m'a donné votre nom, est-ce que vous pouvez me recevoir? Et il dit, mais comment? Libération s'intéresse à la police autrement que pour parler de la corruption, des ripoux et tout. J'ai dit, mais oui, moi, je m'intéresse aux enquêtes policières. Et donc, il me reçoit au 36. Et là, c'est un grand moment parce qu'il va finir par comprendre ce que je veux.
Transparent. Son corps habile au raffinement de l'amour me prendra pour toujours. Elle m'appelle par mon nom quand soudain je perds la raison. Est-ce un maléfice ou l'effet subtil du cannabis?
Serge Gainsbourg, Cannabis. Musique bien connue, Serge Gainsbourg, on le retrouve d'ailleurs dans le 36 de Patricia Touranchot.
Musique bien connue des services de police.
Gainsbourg, lui aussi bien connu des services de police, et en bonne part, puisqu'on apprend qu'il aimait se faire accompagner en panier à salade quand il sortait de boîte de nuit, puis qu'il allait boire des 102, ce cocktail presque aussi simple que la salade Miami de la mère de la daronne d'Anne Lorquer. Les 102, c'est deux pastis dans un seul verre, ouais, et voilà, 51. Le calcul est vite fait. 2,51. On entendait Gainsbourg nous parlait de l'effet subtil du cannabis. Alors, on n'est pas vraiment aujourd'hui avec Anne Lorquer, ces dealers dont vous décriez la pauvreté crasse en matière d'introspection, ou ces jeunes gens, puisque il est question de trafic avec le Maroc, que vous appelez les Marocains hydroponiques, hein, qui sont hors sol, et qui sont hors sol pas simplement du point de vue de l'identité, mais aussi sans doute parfois du niveau, du côté de l'intelligence. Mais à propos de votre expérience de terrain commune avec Patricia Touranchot, si je puis dire, bien que Patricia Touranchot soit journaliste et vous, avocate pénaliste, Patricia Touranchot, on lui a demandé, quand elle a sorti son livre, vous auriez pas pu faire un roman? Elle dit non, je suis incapable d'inventer. Mais est-ce que vous, à votre façon, vous n'êtes pas incapable aussi d'inventer? Je pense à des épisodes qui sont plus forts que la fiction, comme celui du Quick de Fleury pour votre héroïne.
Ah, c'est vrai que le Quick de Fleury, ça sent le vécu. C'est sûr que... il y a des choses qui sont tellement ancrées dans mon quotidien que c'est difficile de pas en parler. Il y a pas mal de choses. Je pense par exemple à une audience d'indemnisation de la détention provisoire qui fait Patience Portefeu commence à en avoir vraiment ras-le-bol de son métier. C'est quelque chose que j'ai vécu moi en tant qu'avocat. Donc c'est vrai que je m'abreuve de choses que j'ai vécues pour les remettre dans mes romans, mais c'est tellement bien quoi parfois. Ça serait dommage de passer à côté. Mais d'un autre côté, mon père n'a pas enterré des cadavres au fond de notre jardin. Si voilà.
On peut peut-être dire aussi que, au-delà de ce que vous observez parfois et de ce réel qui est plus fort que la fiction et qui fait qu'effectivement vous parlez de non-fiction, de polar non-fiction à propos de votre livre, Patricia Touranchot, Annel Orker, qu'est-ce qu'il y a de votre analyse, vos petites notes peut-être sur le monde qui vous entoure, qui filtre dans ce livre La Daronne? Parce qu'il y a des phrases assez définitives sur une société qui est raciste et paranoïaque, sur ces paternalistes bourgeois de gauche qui ont besoin de passer du temps avec un arabe pour se sentir bien. Non mais c'est vos phrases hein, que je cite. Vous aimez bien aussi Orelsan, le rappeur que vous citez nommément. Personne ne trouve de travail fixe, même avec un bac plus 8. Mon livreur de pizza s'est réparé des satellites. Il y a une petite chronique, comme souvent d'ailleurs dans le polar, de la société de 2017, sans parler des deux filles de votre héroïne qui sont ouvrières du tertiaire.
C'est comme ça que je lis la société dans les journaux tous les jours. J'entends parler les amis de mes enfants qui viennent à la maison. Enfin, oui, je suis connectée à la vie réelle. C'est pas une question de romancière, c'est une question de citoyen. Tout le monde est connecté. On est tous connectés ici à la vie réelle. Je vis pas claquemurée chez moi. Bien que c'est difficile quand on est romancier, comme disait mon père, de regarder les gens passer dans la rue et de passer dans la rue en même temps. Bon, mais c'est pour ça aussi que j'écris pas. Enfin, je ne fais pas qu'être écrivain. Hein, c'est-à-dire, je vis aussi. Et on ne peut pas, fermer les yeux sur l'état de la société.
Mais vous en êtes rendu compte au fil de l'écriture de cette histoire, donc de cette traductrice-interprète de prison payée au noir qui va détourner donc un go-fast et tomber dans le deal, qu'il y allait avoir une chronique aussi de la fin de vie, une chronique de ces jobs pourris dans le tertiaire qui allait s'immiscer, ou finalement ça vous a surpris, vous, à l'écriture, Anne Lorker?
Est-ce que ça m'a surpris? C'est-à-dire que, au fur et à mesure que mes journées passent, je vis des choses. Et puis tout d'un coup, alors pour les ouvriers du tertiaire, ça a l'air de vous avoir marqué. J'étais en rendez-vous dans un bureau et je vois par la fenêtre en face des filles. Il est 20h, elles sont devant des ordinateurs et il y a un type en jean qui leur tripote les épaules, qui doit dire « Cocotte a été extra, si tu peux rester jusqu'à 21h, ce serait super ». Et on sent la B-News le vendredi soir, on sent les filles qui ont espéré être dans la mode, mais finalement elles sont dans la vente en ligne, on sent plein de choses comme ça, super tristes, de copines à 22h qui vont dans des before qui sont plutôt des afters et qui vont expliquer à leurs copines que oui, elles ont eu un sac Balenciaga entre les mains, mais que en fait, elles en ont eu d'ailleurs 4 et elle a dû les envoyer, mais tu comprends, la nana, elle sait pas ce qu'elle veut. Hein. Mais on les voit 10 ans après et elles sont toujours au même endroit avec le même type qui leur tripote les épaules et qui dit « Mélanie, cette semaine, je sais pas ce que t'as, mais là, ça va pas trop ». Voilà, et qu'elles se font lourder, quoi, c'est des ouvrières.
Patricia Touranchot, vous opiniez du chef pendant ce temps-là, parce que vous avez lu La Daronne.
Bah bien sûr, moi j'ai adoré La Daronne. Et j'adore comment elle est sans scrupules. Hein, parce que, en fait, celle qui va devenir la petite dame, quand même, devient une immense trafiquante de stup. Elle a 1,2 tonnes de shit à fourguer, elle y arrive. Et j'adore comment elle s'en fout, quoi. Comment elle fait ça de manière quasiment naturelle, alors qu'elle était pas prédestinée à ça avec ses écoutes toute la journée. Et comment elle envoie bouler aussi son poulet là, son amant poulet qui lui croit en Dieu, ce qui a l'air de la choquer énormément et qui est trop droit aux yeux de la daronne. Enfin bon, son livre en fait, il sent le vécu, mais c'est vrai sur la maladie d'Alzheimer, enfin la dégénérescence des vieux, c'est très bien vu quoi, ça sent le vécu aussi, je pense. Oui. Et j'adore, c'est moi je fais du polar non-fiction, mais j'adore du polar fiction mais du réel, enfin inspiré du réel.
Mais est-ce que on peut pas dire de vous aussi, Patricia Touranchot, qui avait travaillé tout au long de ces années avec des flics, mais aussi avec des voyous qui avaient voulu rester au milieu. Alors, il y a une équivoque sur le mot milieu. Il y avait d'ailleurs des flics et des voyous à votre pot de départ de Libé. Est-ce qu'on peut pas dire de vous aussi que vous êtes sans scrupules, comme la daronne d'Anne Lorquer?
Non, moi, je suis sur ma ligne au milieu. J'essaye d'être honnête.
Ah, au contraire, c'est une démarche éthique.
Ah non, mais moi, j'essaye de rester sur la ligne jaune, là, et de pas déborder ni du côté des poulets, ni du côté des bandits, ce qui est pas toujours évident. J'ai eu quelques cas de conscience, mais voilà, moi, je n'aurais pas pu travailler pendant 30 ans avec des clients aussi différents que des voyous et que des policiers si j'étais pas restée au milieu. Mais j'adore être... c'est un peu un numéro d'équilibriste, mais que j'adore, parce que la matière qu'on recueille des deux côtés est super. Et l'un sans l'autre, c'est pas bien. Moi, je veux pas m'occuper que de la police. Je veux voir le revers de la médaille, donc je veux voir les autres aussi, les criminels, les escrocs, les bandits, les braqueurs, les voleurs de bijoux. Ça m'intéresse. Alors, il y en a beaucoup qui sont en prison, mais ils ressortent, ils m'envoient des petits mots. Enfin bon, voilà, on garde le contact.
Pas quand ils sont en cellule, j'espère.
C'est à voir.
And alors, 1, 2, 3.
À suivre dans Ping Pong, eh bien, on continue ce numéro d'équilibriste sur la ligne jaune et on saura peut-être ce qu'il y a dans les petits messages qu'envoient les détenus quand ils sont affleuris à Patricia Touranchot, journaliste. Et on reparlera de ce qui se trame au Quick de Fleury dans La Daronne, le nouveau polar d'Anne Lorquer.
Et dans quelques instants, nous allons pouvoir entendre de la musique vivante. Vous l'entendez d'ailleurs il y a quelques secondes, derrière moi, c'est du geomongo. C'est un instrument coréen. Il y a aussi une gamme pentatonique qui y est attachée. Vous connaissiez la musique de chambre et peut-être pas la musique de chambre mal rangée. C'est ainsi qu'il se présente, le groupe Mungogo, un duo qui nous a un jour adressé une paire de raquettes de ping-pong. Non seulement en clin d'œil à l'émission, mais aussi à leur système de composition. C'est un véritable jeu de ping-pong entre la Corée et la France, entre Federico et Jongju. On écoute Mungogo.
Between the lines, but the lines are short. No gap between the lines, and the book is broken. I read between the lines, when the lines are gone. No line between the lines, and the book is yours. Fake, crap, joke, no fun. Shove it off your library, your shelves, closet. I'd rather be nowhere entertained, nowhere entertained if you don't mind. I'd rather be nowhere to be found, nowhere to be seen by myself, by the world. I wish I were somewhere in between right here. Is it so hard to understand? You want me here and then you want me there. You want me everywhere, everywhere, entertained. I'm up here, entertained. Twisted mind, pretty twisted arm, dance, twisted song you have in mind, twisted that you have in mind. Sing along, no more, anywhere, anytime. Thank you.
Comme ça, par une sorte de fantôme d'Alan Vega, le chanteur de Suicide. Il était devant une page de cahier, comme ça. C'est une relecture textuelle d'un instrumental nord-coréen de 1964, d'un joueur de Jeongmongo, donc cet instrument joué par Jongju pour nous en direct. Et donc, un instrumental signé Kim Young-sil, donc en 1964. Vous les retrouvez, Moongogo, avec ce titre Shulgang et ce clip complètement hallucinogène qui passe par toutes les couleurs. Bientôt en concert au Petit Bain à Paris le 7 juin, c'est demain soir, le 17 juin au Scène Vagabonde de Nantes, puis un petit peu sur la route des festivals cet été, notamment au festival Sphinx à Anvers le 29 juillet ou encore le 1er août à la Déferlante au Sable d'Olonne. Merci Moongogo.
Ping pong.
V35 de TNZ, voici message.
C'est sur France Culture.
Allô TNZ de V35, j'écoute.
Par un dimanche de l'automne 90, je franchis pour la première fois le porche du 36 et j'attaque, le cœur battant, la traversée de la cour pavée, puis l'ascension de l'escalier mythique. Ces locaux de la PJ parisienne, je ne les connais qu'à travers de vieux films des années 50, Quai des Orfèvres de Clouzot et Identité judiciaire de Bromberger et les romans de Simenon. Cette fois-ci, ce n'est plus en spectatrice ou lectrice que j'aborde ce bâtiment à la tour pointue qui s'étend le long de la Seine, mais en journaliste. Missionnée par Libération pour m'occuper de la police, des crimes et des bandits, la provinciale que je suis n'a aucun contact à Paris. Je débarque avec un seul nom en poche, fourni par un flic de l'APJ de Lyon, où je faisais déjà pour Libé la tournée, comme on dit chez les faits-diversiers, à l'hôtel de police surnommé Fort Apache. Mon nouveau Fort Apache, c'est le 36 Quai des Orfèvres.
Trois individus armés, descendus d'une traction avant, portant le numéro 70-18-95-Z-75, Jeptel, 7-8-9-5-Z-7-5.
Patricia Touranchot, vous venez de nous conter donc vos premiers pas en 1990 dans cette vénérable maison peuplée de policiers depuis 1913 et qu'on appelle le 36, ce 36 Quai des Orfèvres qui donne son titre à votre livre « Histoire de poulet, d'indique et de tueur en série » qui vient donc de paraître au Seuil coédition avec Les Jours où vous officiez, voilà, vous faites vos méfaits, vous accomplissez vos méfaits aujourd'hui de faits diversiers et de journalistes spécialistes des questions de police et de justice. Et ce livre, il paraît aujourd'hui l'année même où ce 36 déménage pour aller dans une belle tour vitrée du quartier des Batignolles, où il y aura sûrement de la place, un peu moins de chaleur et de froid glacial l'hiver, mais aussi moins de fantômes. On entre dans cette bâtisse, mais vous disiez tout à l'heure, au tout début de cette émission, je m'immisce dans la peau des flics. Alors on a l'impression que vous les dépecez quand vous dites ça, mais est-ce que c'est pas au fond les flics et ce 36 lui-même qui s'est immiscé en vous ? Est-ce que vous avez été marabouté par les lieux ?
Non, je pense pas. Je pense que c'est moi qui essaye comme une petite souris, quoi, d'écouter ce qu'ils disent. Je traîne dans les pots, je mine de rien. Alors, en même temps, je leur ai imposé le calepin quand même, hein, le carnet de notes. Et parfois, c'était horrible parce qu'ils rayaient ce que je venais d'écrire comme notes sur mon cahier, quoi. Je disais non, mais c'est pas possible.
En leur promettant qu'ils auraient le droit de relire vos copies pour
non.
certains.
Ah non, alors ça je l'ai fait une fois lors d'une immersion à la brigade criminelle, j'ai eu le droit et j'étais la première à le faire en 98, j'ai eu le droit de passer 12 jours à la CRIM et là en fait c'est le grand patron de l'époque qui s'appelle Patrick Riou qui m'avait autorisé et donc les policiers eux en interne ne l'acceptaient pas et pensaient l'un m'a dit mais si je vous parle, si je parle à une journaliste moi j'ai l'impression que je mets ma tête sur le bio. Et donc, c'était incroyable. J'ai passé les premiers jours, mais pire qu'en garde à vue, quoi. C'était des gardes à vue à répétition. C'était atroce parce que tous disaient, mais oui, mais moi, j'ai travaillé sur le meurtre d'une gardienne de la paix sur le périph dans le 18e et tout. J'ai pas reconnu mon histoire dans les journaux. Je dis, mais attendez, vous êtes officier de police judiciaire, donc normalement, vous parlez avec des preuves, hein, vous établissez des PV pour la justice. Donc, vous allez juger sur pièce parce que moi, j'ai écrit sur cette affaire, mais je suis pas sûre que cet article-là que vous ayez lu. Et le lendemain, je revenais à la CRIM avec les papiers que j'avais écrits sur l'histoire en question et je le mettais sous le nez de l'officier de police judiciaire et qui en fait disait « Ah mais non, c'était pas votre article. Non, 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 c'est bien, c'est bon. »
On lisait Libé au 36.
Donc il me parlait. Et pour qu'ils finissent par me parler vraiment de leurs affaires, là je me suis engagée auprès de certains à leur faire relire avant parution ce que je leur mettais dans leur bouche, entre guillemets, hein, sachant qu'il n'y avait pas leur nom, juste leur prénom. Mais et c'est comme ça finalement qu'ils m'ont parlé de manière assez libre et que j'ai pu faire 12 pages.
On se retrouve avec un texte qui est multiple, hein, qui est un mélange de tissages différents qui partent aussi de cette idée de déménagement pour le New 36. C'est vrai que sans la cour pavée, sans l'escalier mythique, le côté bienvenue à Gattaca du 36 quai des Orfèvres, on va être bien loin du 50 quai des Orfèvres de Clouzot ou encore Identité judiciaire de Bromberger que vous citiez au début là dans cette lecture. Donc est-ce que le point de départ, il est à la fois la nostalgie, en même temps les dernières affaires du présent que vous avez envie de saisir, et puis aussi un cold case qui vous tenait à cœur, le grêlé.
En fait, je veux, avec ce déménagement, moi je voulais raconter de l'intérieur à la fois la grande histoire du 36 et les petites histoires du 36 et les histoires, voilà, tout ce qui fait leur sel. Et donc il y a une histoire qui me tenait particulièrement à cœur, dont j'avais pas eu le temps de m'occuper les années précédentes, qui était la traque de ce tueur d'une petite fille, enfin c'est un tueur de petite fille, violeur de petite fille, qui a commencé à sévir en 86 et qui a tué une petite Cécile Bloch, 11 ans, et dont le frère d'ailleurs a vu le tueur dans l'ascenseur le matin et l'a décrit comme étant quelqu'un, la peau abîmée, et on l'a appelé le grêlé. Et ce frère était également étudiant en biologie. Et dès le départ, a dit aux policiers de la brigade criminelle, vous savez, en Belgique et en Grande-Bretagne, il existe un truc incroyable pour incriminer ou dédouaner un coupable, c'est l'ADN. Il leur a expliqué ce que c'était l'ADN. Et eux, alors les policiers du groupe Pasqualini qui dirigeaient cette enquête à la CRIM me disent, mais pour nous, ils nous parlaient en hébreu. C'était la science-fiction. On ne comprenait pas ce qu'il nous disait le frère Bloch. Et ce n'est que 10 ans plus tard, vu les retards en France, que l'ADN va être fait dans ce dossier et va rapprocher des cas d'autres viols, d'autres crimes de petites filles que le groupe Pasqualini avait déjà, avec les vieux moyens qu'ils avaient, enfin leur flair, leur rapprochement de mode opératoire, ils avaient déjà relié ces cas. Mais l'ADN va apporter de nouveaux cas, et notamment un double meurtre d'adulte dans le Marais, une jeune fille opéra-allemande et son patron qui travaillait comme mécanicien à Roissy, qui ont été assassinés par le grêlé. Il y a le même ADN, il les a torturés, et les policiers découvriront donc bien plus tard, parce que là l'ADN n'a été fait qu'en 2001, donc 15 ans après les faits, et que la jeune fille au père allemande, elle tenait un carnet de ses relations masculines et les policiers vont en retrouver 29 sur les 30. Et le 30e, c'est le grêlé en fait, il se fait appeler Élie Loringe, il donne une adresse, 13 rue Rubens à Paris 13e, qui était...
On est en plein film là avec Patricia Tourancheau.
Scénariste également, disons-le.
Qui était un squat, et mais qui avant, il y a un policier qui s'est dit, mais moi, quand je suis rentrée dans la police, je suis venue faire mes photos anthropométriques et prendre ma carte de police ici dans ce local au 13 rue Rubens. Donc c'était un local de la préfecture de police de Paris. Et comme le grêlé, plus tard, change de mode opératoire, utilise parfois un holster avec une arme, une fausse carte de police ou une vraie carte de police, une arme vraie ou fausse, un talkie-walkie et qui se fait passer pour un policier, donc... La piste du policier ou du faux policier ou du fils de policier ou du recalé de la police fait partie des pistes d'enquête. Mais voilà, je vous dis pas la fin.
Anne Lorquet,
mais c'est la réalité, en tout cas.
On l'entend dans ce que nous dit Patricia Tourancheau. Il y a à la fois le plaisir du récit, mais aussi celui de reprendre des enquêtes. Mathilde disait les cold cases, les affaires non résolues. Il y a ce plaisir aussi, celui-là, à s'immiscer dans la peau des flics, comme vous dites, Patricia Tourancheau. Est-ce qu'on peut pas dire qu'avec La Daronne, vous, l'avocate pénaliste et auteur de Polar, Anne Lorquet, il y a eu ce plaisir de s'immiscer dans la peau des dealers et de faire mieux qu'eux, ou en tout cas de passer à l'acte quasiment?
Ça va plus loin que ça. C'est se dire, parce que dans la peau des dealers, on y est tous les jours, puisque dans mon métier, on est bien obligé de se mettre dans la peau de clients. Donc ça, voilà, ça j'y suis dans la peau. C'est pas le problème.
Dans leur claquette de piscine et.
Voilà, non.
Et leur maillot du PSG.
C'est la transgression. C'est nous, avocats, on a tous les moyens de passer la ligne jaune. C'est évident. On a les moyens de la passer la ligne jaune tous les jours. La ligne jaune, elle est là et on regarde de l'autre côté, quoi. Le roman, ça permet de se dire et si. Voilà. Passer la ligne jaune par écrit, c'est tellement jouissif.
Vous êtes peut-être sur écoute, du coup, maintenant.
Voilà. Donc c'est et c'est pas passionnant ce que je raconte par téléphone. Voilà, passer la ligne jaune, c'est une forme de voyage pour moi. Et j'arrêterai. Pourquoi j'écris du polar? Parce que finalement, c'est plus des romans noirs ce que j'écris et des romans de société plus exactement. Mais c'est des polars parce que j'ai une fascination absolue de ce voyage intellectuel qui est de l'autre côté de la ligne jaune.
Vous parlez de la ligne jaune et d'aller de l'autre côté. Alors, car il y a aussi peut-être un indice qui est laissé dans ce roman noir de société qui est La Daronne, publié aux éditions Métayer, qui est l'héroïne, donc Patience Portefeux, se retrouve dans sa vie de face et ses vacances fitzgéraldiennes du début de sa vie avec ses parents, aux côtés d'Audrey Hepburn. Et Audrey Hepburn lui demande « qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard ?» Elle dit « je voudrais être collectionneuse de feux d'artifice ». Et au-delà de franchir la ligne jaune, sa ligne jaune, bleue, rouge, qu'est-ce qu'il y a dans cette expression, peut-être, de votre vocation d'écrivain ou de ce que vous cherchez dans le texte?
Il y a quelque chose qui me fascine, en fait, c'est la vie des surfeurs. C'est pour ça que je parle de la taille de ma poitrine.
Vous savez, des surfeurs il n'y a pas longtemps et vous mentionnez The Endless Summer.
Voilà, l'été sans fin est quelque chose de merveilleux. Et depuis que je suis enfant, je suis passionnée par l'été sans fin. J'aimerais vivre l'été sans fin. Et l'été sans fin, les surfeurs vont d'un spot à l'autre et leur nation, c'est la planète entière. Et ils suivent les vagues et l'été. Et collectionneur de feux d'artifice, c'est pareil. On suit l'été parce que les feux d'artifice sont tirés l'été pour pas éviter la pluie, la neige, tout ça. Donc collectionner les feux d'artifice, c'est une vie mais totalement marginale et je dirais pas superficiel, mais enfin on est vraiment pas un élément utile pour la société quand on est collectionneur de feux d'artifice, un peu comme quand on est surfeur
ou quand on est écrivain.
Voilà,
il y a de ça.
Ah si, écrivain, si, quand même. On est très très utile, ne serait-ce que parce que on distrait les gens
et que ça vous évite de passer à l'acte, si on a bien compris.
Et c'est une thérapie personnelle. Mais non, ce qui est intéressant dans la collection de feux d'artifice, c'est que oui, on voyage d'un spot à l'autre comme un surfeur. Alors comme je me vois mal être surfeur, collectionneuse de feux d'artifice, ça se fait que sur des lacs, des mers, c'est très 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 chouette.
Mais alors on peut dire de vous aussi, Patricia Touranchot, qu'à votre façon, vous collectionnez un certain type de feux d'artifice, vous collectionnez les faits divers avec ce 36 donc, et dans votre carrière de journaliste spécialiste des questions de police et de justice, et vous collectionnez aussi les gueules, comme on aime bien dire dans le cinéma, et notamment le cinéma policier de la grande époque, et parmi ces gueules, il y a des avocats, il faut peut-être face à Anne Lorquer dire quelque chose de ces avocats et de ces avocates qui sont dans votre 36.
Comme Anne-Laure Compoint, l'avocate du 36, blonde, vamp, qui défend les poulets.
Bec et ongles. Et ouais, et elle pense que...
Avec un physique de bimbo, un peu comme Anne Lorquer, si ouais. On suit sa description.
Oui, oui, puis elle en joue, talons aiguilles, physique de bimbo, cuir, truc moulant, enfin bon, pour aller voir en garde à vue, des poulets... Pour la plupart, corrompus, enfin en tout cas soupçonnés de corruption et placés en garde à vue pour ça. Et elle défend une espèce de police à l'ancienne où elle pense que voilà, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, hein, c'était un grand adage policier, et que voilà, que la police aujourd'hui se modernise et ne comprend pas ses dérapages. Je suis pas forcément d'accord avec elle.
Anne Lorquer non plus.
Voilà, mais en tout cas, c'est un personnage qui fait partie du 36, hein, même si elle est en marge, comme la rouquine, qui, elle, est une mère maquerelle devenue
Katia.
Indique.
Oui. Oui, non, c'est vrai, mais est-ce qu'on peut finir peut-être sur un personnage qui est révélateur aussi de la mentalité qui va entourer ces professions lorsqu'elles sont dans un univers masculin? C'est vrai que la traductrice interprète qui est donc Patience Portefeu, l'héroïne d'Anne Lorquer, elle a du mal à s'imposer, ou elle se rend compte que quand elle progresse dans son travail, il y a tout un tas de rumeurs qui peuvent tout d'un coup s'adjoindre à cette progression. Et il y a un personnage qui est intéressant, qui est Frédéric Ballan, pour vous, Patricia Touranchot, qu'on dit Loana. En fait, elle est psychologue, elle est profileuse, c'est-à-dire qu'elle travaille sur les serial killers et on la prend pas au sérieux, en fait, dans les enquêtes.
Ouais, c'est-à-dire que la brigade criminelle a toujours été réticente à embaucher voilà, des profileuses, des psychocriminels. Et donc, elle, Frédéric Ballan, arrive après deux échecs. Et elle arrive, notamment, c'est Frédéric Pechnard, alors patron de la crime, qui la prend, notamment pour travailler sur ses cold cases du grêlé. Et là, tout de suite, parce qu'elle est jolie, rousse et aux yeux bleus, machin, tout de suite, elle est surnommée Loana. On lui fait des blagues hallucinantes. Je sais pas, elle se retrouve avec sa carte professionnelle. À la place, c'est une bimbo découpé dans un magazine porno qui se retrouve sur sa place de sa photo à elle. Il y a des blagues comme ça. Et elle, en même temps, ce qui est étrange, c'est qu'elle dit « Je suis fière, en fait, de toutes ces blagues salaces parce que ça veut dire qu'ils m'adoptent. » Et voilà, donc c'est pas facile quand même d'être femme au 36.
Ping-pong. C'est presque fini.
Être libre d'être une petite madame, pour moi, c'est encore être beaucoup plus libre que tout le reste.
C'est un peu un numéro d'équilibriste. Jamais, jamais j'ai vu cet engin au 36 quai des Orfèvres.
Ce serait dommage de passer à côté. Mais bon, mon physique ne s'est jamais prêté aux petits shorts de ralafouf comme Wonder Woman.
Et j'adore comment elle s'en fout, quoi. Mais voilà, je vous dis pas la fin.
On ne vous dit pas la fin, point de spoiler. Merci à toutes deux, Patricia Touranchot et Anne Lorquer. Patricia Touranchot, donc le 36, Histoire de poulet, d'indic et de tueur en série. C'est votre livre publié en coédition par Le Seuil et Les Jours. Une sorte, je le disais, de manuel d'archéologie, hein, de ce siège de la police parisienne et du roman d'aventure. Quant à vous, Anne Lorquer, La Daronne, votre roman noir aux éditions Métellier, vient de recevoir, je le rappelle, le prix Le Point du Polar européen.
Il va falloir inventer maintenant des imaginaires, des univers, hein, écrire un peu autour de ce New 36. C'est pour vous, Anne Lorquer. Le ping-pong est une enquête radiophonique qui se mène en équipe et qu'elle équipe à la rédaction Aïssatou Endoy, Jeanne Aléos, Seam Boutata et Anna Baron, à la réalisation Thomas Beau, à la prise de son ce soir Jean-Guilain Meige et Anthony Thomasson.
Demain, dans Ping-Pong, des enfants soldats, des compositeurs d'origine caribéenne et également d'autres trafiquants de drogue, mais du côté de la zone du Sahel.
Vous pouvez réécouter cette émission, la remixer, la modifier, essayer de savoir quelle est la taille de poitrine d'Anne Lorquer qui a été citée en début d'émission grâce au podcast, bien sûr, sur le site de franceculture.fr.
Et samedi, vous avez rendez-vous pour moult masterclass, dont une animée par Mathilde Serrel. Ce sera un...
Ce sera ici à la Maison de la Radio,
dans
le studio 105, avec entre autres Olivier Assayas et Eric Ruff, le patron de la Comédie Française.